Oui, bonjour, donc merci Michel et Gilles et Réjeanne pour m'avoir invité. Donc moi je suis Jonathan Simon donc d'origine. Donc je suis oui, comme Michel a dit, je suis à l'Université Lyon 1, je suis historien des sciences. Moi je suis responsable d'un axe de recherche dans notre laboratoire qui s'appelle discipline scientifique. Je vais parler un peu de Bon, en fait, je vais présenter un peu la réflexion qu'on a donc amorcée sur cette question des disciplines scientifiques. Voilà, donc si j'ai bien compris donc votre problématique, dans le contexte des TPE, c'est ça, donc travaux personnels encadrés, donc il y a question de développer ou donc de ne pas freiner au moins donc ce qui s'appelle maintenant la codisciplinarité. Donc, et avant, donc, quand moi j'étais jeune, c'était l'interdisciplinarité, mais apparemment, il y a un problème avec ça. Donc, il y a une raison pour laquelle c'est plus interdisciplinarité, c'est codisciplinarité maintenant. D'accord. Donc, voilà, ça c'est la problématique. Donc, moi j'imagine que le problème, c'est plutôt un problème de retranchement, que quand vous demandez aux élèves de travailler sur des questions de manière interdisciplinaire, de mobiliser plusieurs disciplines, donc ça fait peur aux enseignants qui ont tendance de se retrancher donc dans le discipline. Moi, j'imagine c'est la problématique majeure, mais peut-être pas. Voilà, pour cette première demi-heure, je vais parler un peu des disciplines en général. Bon, il va y avoir un peu d'histoire, mais pas trop. Ça va être plutôt donc un peu de théorie autour de ce que c'est une discipline. Et nous traitons donc dans notre recherche plutôt donc des disciplines vues côté recherche donc universitaire. Donc, je commence avec la question, qu'est-ce qu'une discipline? Mais j'ai aucune intention de répondre à cette question, hein. Donc, je crois que l'idée de chercher une définition d'une discipline, on a quand même largement discuté dans notre groupe, et je crois qu'on est assez d'accord que chercher une définition de discipline, on va jamais y arriver. Mais, par contre, donc, ce qui est assez paradoxal, en France, c'est qu'il y a pas, bon, c'est qu'il y a donc, bon, il y a tout un questionnement autour de la nature des disciplines, mais la structure des carrières est très structurée par la question des disciplines. Donc, pour des universitaires parmi vous, vous reconnaissez donc l'importance des disciplines dans la carrière donc de recherche et d'enseignement donc au niveau universitaire. Donc parce que nous sommes gérés par la CNU, donc le Conseil national des universités, et je dis que je donne pas donc une définition des universités des disciplines, mais il suffit d'aller sur le site web du CNU pour avoir toute une liste des disciplines. Donc je reste sur les disciplines scientifiques, donc c'est bien, c'est grouper science pour que on se trompe pas. Donc voilà, science, ça commence avec le groupe 5, la section 25, donc mathématiques appliquées, ensuite informatique qui était donc réinséré, donc c'était. Et puis, voilà, on passe donc à ceux que donc il y a un peu donc physique chimie donc vers la chimie, et puis ensuite donc je vais vous donner l'adresse du site si vous voulez donc regarder toutes les sections. Ensuite donc on passe à la physique, astronomie, astrophysique, mécanique, puis on va vers donc la biologie, biochimie, biologie moléculaire, et puis donc ça c'est la fin de la partie science. On retrouve donc les sciences plus tard, parce que quand les sections sont rajoutées, il y a une section qui a été rajoutée récemment, donc très controversée donc au niveau politique, mais voilà, je ne vais pas en parler aujourd'hui, sauf si vous êtes des criminologues donc dans la salle. Donc il faut aller donc jusqu'au 80. Il y a donc 85, 86, 87 des sciences pharmaceutiques qui sont rajoutées, qui étaient rajoutées plus tardivement. Et moi, donc, pour me présenter, moi, donc, d'origine, mon intérêt pour les disciplines, c'était le travail que j'ai fait pour ma thèse, donc, il y a déjà, donc, quelques années, sur les relations entre la pharmacie et la chimie. Donc, je trouve ça, donc, assez, donc, amusant, donc, dans un sens que la pharmacie s'est rajoutée, donc, un peu détachée des autres sciences, parce que c'est un peu mon argument par rapport. Donc, moi, j'ai mon argument dans mon livre, là, donc, qui n'est pas encore traduit donc, en français. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut le faire, donc, je suis pas prêt à payer, mais c'est passionnant. Donc, voilà, Chemistry, Pharmacy and Revolution in France. Donc, moi, j'ai dit que ça marque le début de la chimie moderne. En fait, le début de la chimie moderne, c'est la séparation de la chimie des autres arts chimiques, comme la pharmacie, la teinturerie et donc la métallurgie et minéralogie, donc tous ces autres. Et donc on voit qu'en fait la pharmacie se retrouve donc réincorporée comme science, mais plus tardivement donc dans cet réseau de disciplines qui est donc défini par le CNU. Donc moi, je fais partie d'une autre section, donc la section 72, qui est épistémologie, histoire des sciences et des techniques. Donc c'est où se trouvent des gens qui font philosophie des sciences, histoire des sciences. Mais donc c'est assez intéressant qu'on assiste aux réunions de la section, parce qu'on passe tout notre temps à discuter donc la nature et la définition de la discipline. Donc on apprend beaucoup sur les disciplines en assistant à ces réunions-là, parce que pour le monde universitaire, c'est là où les frontières de la discipline sont vraiment donc pas définies, mais de manière pratique définies, parce que les gens qui sont considérés dans la discipline sont acceptés, les gens qui sont considérés, donc le travail est considéré au dehors de la discipline, sont rejetés. Donc on voit un peu comme la discipline, c'est pas vraiment mise en place, mais c'est quand même construit, reconstruit, reconfiguré et défini donc dans ces instances-là de manière officielle. Mais c'est un peu particulier, on trouve ça peu ailleurs, donc il n'y a pas beaucoup d'autres pays où il y a ces instances disciplinaires qui décident qui appartient à quelle ou telle discipline. Donc en général, dans la plupart du monde, c'est le chercheur lui-même qui ou elle-même qui se place donc sur un terrain et par son parcours propre et donc identifié comme membre d'une discipline ou pas. Donc la section 72, je vais dire ça parce que ça c'est important, donc notre, comme ça je m'identifie à ma discipline, donc notre discipline, c'est, bon, je suis allé voir la page et ça m'a amusé parce que notre discipline c'est super riche parce qu'on a plein de sections voisines, donc parce qu'on a tous ces sections que vous n'avez pas vues avant parce que c'était des sections de sciences humaines par des sciences identifiées comme des sciences par le CNU, donc le 8, le 17, le 19, le 20, 21, donc on est jamais seul donc dans le 72. Et puis ensuite, il dit par son objet même, on a une association avec toutes les sections de sciences. Mais ça, c'est assez exceptionnel. Donc une section, donc moi je dirais que c'est un peu un manque de solidité ou de confiance ou dans la discipline de 72 qui génère donc cette quantité de voisines et donc la plupart des sections limitent le définition donc par rapport le noyau de ceux qui ont considéré la discipline et ne cherchent pas de multiplier des voisines, moi je dirais. Donc on va revenir à ce point-là, mais ce n'est pas forcément une bonne chose de multiplier des voisines. Donc pour une discipline, si vous êtes stratège de discipline, je crois que c'est mieux d'avoir aussi peu de voisines que possible. D'accord. Donc voilà une petite introduction. Donc cette histoire c'est quelque chose qui est assez intéressant, mais donc assez franco-française, je crois, cette structuration disciplinaire qu'on trouve pas ailleurs. Donc moi, pour aujourd'hui, donc pour le temps qui me reste à présenter, je vais poser cette question. Donc je vais pas présenter une définition des disciplines. Donc c'est Je dis donc dès le début qu'on va pas arriver. On va essayer de penser les disciplines et on peut imaginer penser les disciplines de deux manières. Donc globalement, deux approches globalement différentes. Donc on peut imaginer penser des disciplines de manière internaliste ou penser les disciplines de manière externaliste. Donc, mon spell checker, je ne sais pas comment on dit ça en français, donc correcteur d'orthographe, ça a accepté externaliste, mais pas internaliste. Donc voilà, mais je ne crois pas que c'est des néologismes. Donc pour des gens qui travaillent dans la philosophie, histoire des sciences, c'est des termes qui sont utilisés dans d'autres contextes assez régulièrement. Mais je vais expliquer un peu ce que je veux dire par l'approche internaliste et l'approche externaliste. Donc moi je dirais qu'au niveau des disciplines, donc en lisant la littérature autour des disciplines des dernières 20-30 ans, le consensus de community qui considère donc ces questions des gens qui font histoire, notamment histoire des sciences, mais aussi un peu sociologie des sciences, et donc la vision c'est assez consensuel que la discipline ça a plus de sens si on approche de manière externaliste qu'internaliste. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre ce que je veux dire quand je vous dis qu'il y a ces deux possibilités. Donc de manière internaliste, qu'est-ce qu'on peut dire par ça? Donc, on peut imaginer donc des objets. Donc, il y a cette référence très célèbre donc dans la philosophie des sciences, plutôt autour des débats donc autour du réalisme donc dans les théories scientifiques ou des objets proposés par la science. L'idée donc on dit en anglais cut nature at its joints, donc en français je suppose que quand on coupe donc la nature à ses joints, que donc c'est une métaphore donc barbarique. Moi je mange pas de viande, mais voilà, vous voyez un peu donc la force de métaphore. Si vous voulez découper donc un animal, c'est beaucoup plus facile de le faire si l'on coupe donc au joint, parce que donc les jambes des choses comme ça détache beaucoup plus facilement si vous coupez donc au joint plutôt d'essayer de couper l'os. Donc il y a cette idée que par rapport à l'origine, ce débat, c'est est-ce qu'on peut couper la nature donc à ses joints? Est-ce qu'on peut découper? Est-ce que des atomes donnent donc est-ce que donc la proposition des choses comme atomes et électrons, ça donne donc un bon prix sur le monde parce que le monde est donc composé dans un sens profond des atomes, des électrons. Donc on peut poser les mêmes questions hein, par rapport aux disciplines que est-ce que des objets qui constituent donc le monde peuvent être découpés pour donner suite aux études donc spécialisées qui conforment à une constitution donc du monde. Donc a priori, autant que le débat est donc assez intéressant et animé autour de la réalité qui constitue le monde et éventuellement des théories qui sont proposées pour modeler ou pour interpréter ce monde, il semble pour les disciplines, il y a peu de gens qui veulent porter donc cet argument qui est donc à la base, moi je dirais, la base de l'argument internaliste. Donc notamment, donc ça c'est un contre-argument qu'on trouve déjà, donc c'est que les Britanniques, les Américains et les Français ne coupent pas les animaux donc dans les mêmes endroits, oui, il semble même donc de manière empirique que s'il y avait vraiment donc un partage naturel du champ de savoir autour des objets, donc il y aurait quand même un minimum de consensus entre des disciplines, donc le monde entier, donc et un peu parallèle que on peut couper donc la bête de manière différente. Donc voilà, on peut, mais donc pour continuer, mais essentiellement pour poursuivre, mais pour arrêter donc ensuite cette réflexion internaliste, on peut imaginer, on peut proposer donc des définitions un peu donc soit autour des objets, soit autour des méthodes, soit autour de parties donc du monde qui vous donne éventuellement les disciplines. Donc moi j'ai réfléchi un peu autour du niveau des disciplines scolaire, plutôt discipline donc de recherche d'aujourd'hui. Donc on peut dire donc la chimie, transformation de la matière, biologie, sciences de la vie, donc tout ce qui touche la vie, donc c'est la biologie, sciences de la matière, c'est sciences de la matière qui n'inclut pas donc la transformation de la matière, donc ça peut être la physique, ou donc apparemment vous en avez parlé donc hier, donc on peut imaginer donc des méthodes, mais on va revenir donc sur cette question de méthode donc dans quelques minutes. Bon. Donc un livre très important, donc comme j'ai dit, ça c'est un peu la fin de la partie internaliste, parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts à défendre donc cette thèse internaliste qui a vraiment une logique donc profonde du monde disciplinaire. Donc donc parmi des livres, un livre donc des recherches, une recherche très importante qui est sortie donc au début des années 80, c'est le livre de Robert Koehler sur l'origine de la biochimie, où lui donc voilà, on revient donc sur une étude historique sur les origines d'une discipline où il a étudié donc les origines de la biochimie. Et lui, donc, il dit dans l'introduction qu'au début, il avait pas de position par rapport donc à ce débat global donc une forme d'internalisme, que c'était une logique inhérente de développement des études des fonctions des êtres vivants, ou si c'était donc plutôt suite à des conformations donc des éventualités donc plus ou moins aléatoire, mais pas complètement du monde où, social des chercheurs et des enseignants qui constituaient ou qui a donné naissance à la biochimie. Et il a dit qu'à la fin de son étude, il avait donc été convaincu que, en fait, les origines de la biochimie se trouvaient essentiellement dans les transformations de l'enseignement et le monde de l'enseignement et de la recherche, donc aux États-Unis un peu, en Allemagne, mais essentiellement aux États-Unis. Et il dit que donc voilà, la biochimie, ça remplace donc au début du XXe siècle donc la chimie médicale, la physiologie, donc ou la chimie donc liée à la physiologie, pour donner donc la biochimie comme discipline. Et il dit que ça devient possible, notamment à cause des réformes de l'enseignement de la médecine aux États-Unis. Donc, au fin 19e, début du 20e, il y avait des grandes réformes de l'enseignement qui a repoussé l'enseignement de la chimie de base à l'extérieur des collèges de médecine. Et parce que les étudiants qui entraient donc dans la formation de médecine avaient déjà des bases de chimie, on n'avait plus besoin d'enseigner donc ces cours introductions de chimie donc dans les facs de médecine. Donc ça a ouvert donc un nouvel espace pour l'enseignement de la chimie, donc de chimie avancée, et c'est là où se sont placés donc les biochimistes, et c'est autour de ces postes de donc aux nouvelles, c'était collège de médecine aux États-Unis, où c'est là où s'est construite donc la communauté qui était donc à la base de la nouvelle discipline de la biochimie. D'accord, on peut aussi donc penser les disciplines, donc parce que ça c'est quelque chose ça m'a assez surpris quand on a commencé à regarder la littérature. Il y a beaucoup de gens qui font référence à Kuhn pour discuter des disciplines. Donc pour ceux entre vous qui n'avaient pas encore lu donc la structure des révolutions scientifiques, ça en plus c'est traduit en français, donc vous pouvez pas d'excuses. Donc voilà, et en plus c'est disponible en version poche, pas très cher, facile à lire. Donc voilà, pas d'obstacle particulier, donc il faut le lire. Qu'est-ce qu'on peut donc tirer d'une mobilisation des conceptions des révolutions scientifiques, comme c'était formalisé par Kuhn donc dans cette publication de 62, donc qui a quand même marqué beaucoup de disciplines, notamment, et donc même est peut-être responsable pour la constitution de plusieurs. Donc pour ceux qui ont Donc ce qui ne connaît pas du tout Kuhn, donc l'idée de base, c'est que la science se fait essentiellement autour des pratiques qui s'appellent « normal science », donc la science normale, qui se constitue autour de paradigmes. Et donc l'histoire des révolutions, c'est le passage très rare, donc le changement de paradigme. Donc les exemples qu'il donne, c'est la révolution chimique, la révolution de l'introduction de la mécanique quantique, la relativité, et bien sûr la révolution copernicienne, donc le passage de une vision géocentrique vers donc le décentre, donc le décentrage, je ne sais pas si on peut dire ça en français, donc parce que je ne vais pas dire c'est vers un monde héliocentrique, parce que c'est même pas forcément héliocentrique, mais c'est la fin du géocentrisme. Donc c'est les exemples qui prennent de révolution. Mais donc pour parler des disciplines, ou donc la discipline scientifique, c'est ce qui est important, c'est le paradigme et la science normale, parce que la science normale qui s'opère donc autour des paradigmes, c'est là la discipline scientifique. Donc on a appelé notre projet discipline scientifique pour aussi jouer sur le double sens de discipline. Que je crois que c'est important, donc il y a des gens qui, parce que donc on va peut-être entendre ça avec Marilyn, on va peut-être parler de le sens de discipline comme discipline corporelle, que rester discipliné et travailler donc dans son champ, c'est autant une partie d'une discipline que donc qu'il faut être discipliné pour être un bon scientifique. Et la discipline, donc, selon Kuhn, est donnée par la paradigme. Et donc, ce qui est intéressant, donc, ce que moi, je trouve toujours le plus intéressant en Kuhn, c'est sa vision de l'éducation scientifique. Et donc, l'éducation, c'est donc pour donner... Donc, pour caricaturer un peu, pour Kuhn, donc, la formation scientifique est, donc, un système de borrage de crâne où on apprend, donc, par répétition, donc, sans cesse, donc, le paradigme, on l'internalise. Et ça, donc, je crois que ça, c'est peut-être, donc, c'est sans doute un parti important de la nature et les notions des disciplines. Et moi, je crois, pour revenir à mon propos de départ, j'imagine que cette partie formation paradigme disciplinaire, donc dans ce sens de vraiment dresser des étudiants, des élèves, des étudiants, donc dans les paradigmes, ça fait partie de la discipline et partie des raisons pour lesquelles les gens ont peur de quitter le discipline pour aller regarder ailleurs, parce qu'ils ont passé longtemps. Donc moi, quand j'enseigne Kuhn à mes étudiants, je leur pose toujours la question, c'est quand la dernière fois qu'un professeur vous a posé une question, donc lors d'un examen, à laquelle il ou elle ne connaît pas la réponse. Donc c'est quand la première fois, donc... Parce que moi, je crois que c'est quelque chose qui différencie donc entre des sciences et des non-sciences, que voilà, donc, je sais pas, donc je n'ai pas formé en France, mais j'imagine que lors du bac littérature, ils peuvent dire voilà, écrire donc une poésie donc sur donc les arbres ou quelque chose, et voilà, ils attendent pas une réponse précise, ils savent. Mais c'est très rare, donc lors du bac, un autre, je ne sais pas combien, donc dans le secondaire, même, j'imagine que c'est assez rare qu'un prof de science pose une question parce qu'il s'intéresse donc à la réponse, oui, parce qu'il veut découvrir. Donc il dit, voilà pourquoi donc, ces deux produits-là font donc, un ester. Ce n'est pas parce qu'il veut savoir donc, la réponse, c'est parce qu'il veut valider que l'élève a bien intégré donc, les éléments du paradigme de la matière en question. Mais voilà. Donc voilà, on peut, et je crois qu'il y a plusieurs... chercheurs, donc des sociologues et d'autres qui ont essayé de construire donc la notion de discipline autour de cette idée de paradigme. Mais donc là, donc ça c'est quelque chose qui est très bien connu sur Kuhn, qui était très très imprécis sur ce qu'était exactement un paradigme. Donc dans la structure des révolutions scientifiques, il donne donc la définition suivante paradigme, l'ensemble des valeurs et des techniques que partage un groupe scientifique. Et donc poser la question d'échelle. Donc les exemples qu'il donne, donc la révolution copernicienne, la révolution de mécanique quantique, c'est des bouleversements de toute un champ, donc toute la physique s'est basculée avec la mécanique quantique et la relativité. Mais on peut poser la question, donc en variant donc l'échelle, qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait un changement de paradigme. Et là, on peut mobiliser donc une réflexion sur la nature des disciplines et éventuellement des sous-disciplines en termes de cette idée de paradigme. Mais vu que l'idée de paradigme est assez floue, donc la réflexion reste donc floue aussi. Donc, logiquement. Donc il y a toute une réflexion autour de la spécialisation. C'est clair que la spécialisation, c'est donc il y a quelques il y a des questions qui sont souvent soulevées ensemble, donc la professionnalisation, spécialisation et disciplinarisation ou formation des sous-disciplines. J'ai pas le temps d'en parler. Je suis pas sûr que j'ai une réponse à quelle est donc les relations entre tous ces domaines-là. C'est clair qu'il y a donc des connexions, mais quelle est la connexion? Donc il semble avoir une logique quand même. Vous voyez, vous avez vu donc le CNU, c'est très rare qu'ils retirent donc une discipline. Ils ajoutent plutôt des sous-disciplines qui deviennent reconnues comme disciplines, et souvent dans des débats à l'intérieur des sections de CNU, c'est est-ce que donc ça fait partie de notre discipline, ou est-ce que c'est arrivé à un point où on doit créer donc une nouvelle section pour faire face à cette nouvelle discipline. Et donc il y a cette logique qui est poussée à la fois par tous les éléments que vous connaissez des sciences, que les sciences donc vont en poussant donc des frontières avec l'augmentation. C'est très rare que des chercheurs demandent de moins en moins d'argent pour des machines de moins en moins puissantes, pour faire de moins en moins différenciation. Donc toute la logique sociale ou historique de la science se pousse vers la spécialisation. Donc on peut le cacheter, je sais pas comment on dit ça. Donc on peut monier ça comme on veut. Mais voilà, c'est clair qu'il y a certaines logiques. Je sais pas, donc en anglais, on dit « cash it out ». C'est un bon, vous dites pas ça en français. Non, mais vous êtes tellement donc anti-argent et donc logique financière que vous « cash it out », c'est quand vous vendez quelque chose. Voilà, vous avez stocké toute cette, je sais pas, votre collection de capsules de bière. Et voilà, un jour, vous ne voulez plus, vous cachez ça, vous vendez, vous voyez combien ça vaut. Ouais. Donc voilà, ça dépend comment vous cachez cette question de spécialisation. D'accord, je vais finir donc avec quelques éléments un peu pratiques. J'ai encore quelques minutes, c'est ça? Non? Je sais pas, il faut me discipliner, parce qu'autrement, si vous ne posez pas donc une discipline, c'est n'importe quoi. Donc je vais finir donc avec quelques éléments de réflexion qu'on trouve dans la littérature qui peuvent peut-être vous aider. Donc toute cette histoire des frontières, donc à partir des années 80, des sociologues, des historiens des sciences ont quand même réfléchi autour de pas directement sur les disciplines, mais sur les questions des frontières. Donc ça sort un peu d'un intérêt dans les années 70 vers les années 80, donc un intérêt pour les controverses, donc lié à tout un ensemble d'intérêts dans la philosophie des sciences notamment. Et donc lors des controverses, donc on voit souvent donc des conflits donc entre disciplines ou des groupes des sous-disciplines. Et là donc on a vu donc dans les études de cas donc qui sont devenues classiques du travail, donc un terme qui va peut-être être utile, c'est l'idée de boundary work. Oui, donc il y a le travail de délimitation donc qui établit donc les frontières Donc dans cet article, c'est une question de différencier entre science et non-science, donc une non-question dans la philosophie des sciences. Mais on peut aussi donc mobiliser cette idée de boundary work pour différencier entre les frontières. Et donc il y a donc du travail à dire, voilà, donc mais ça, cette question-là, ça fait partie de ma discipline et pas le vôtre. Et donc, le boundary work, l'idée de boundary work, c'est un travail pour séparer donc bien des disciplines, des sous-disciplines. Et il y a cette idée donc de boundary objects, où on reprend donc le même terme de boundary, de frontière, donc des objets transfrontaliers. Donc ça, j'habitais avant à Strasbourg, donc c'est parce qu'il y avait plein de personnes transfrontalières à Strasbourg. C'est un peu bizarre, mais c'est ce qui m'est venu donc à l'esprit. Les boundary objects, c'est dans ce sens l'inverse que boundary work, que les boundary objects, donc il y a cet article de Starr et Griesemer, c'est des objets qui peuvent être utilisés pour communiquer, pour échanger entre donc des disciplines ou des domaines qui sont différents. Et il faut pour ça, donc c'est un élément peut-être intéressant, donc la flexibilité d'interprétation, donc interpretive flexible, la souplesse d'interprétation, c'est ça que j'ai trouvé. Donc pour qu'un objet puisse donc faire ce travail, il faut que l'objet soit donc assez ouvert à l'interprétation pour avoir un sens donc dans les disciplines où on approche des choses différemment. Donc moi je prends donc un exemple donc un peu au hasard, mais pas complètement au hasard, donc l'acide désoxyribonucléique, donc l'ADN pour vous, le DNA pour moi, mais où le donc l'acide, cet acide là on peut, donc c'est quelque chose qui circule, donc qui peut circuler entre la chimie et la biologie, par exemple. Donc c'est clair que ça a un sens différent, donc pour les biologistes, que pour des chimistes. Donc on peut faire un cours de chimie sur des liaisons donc hydrogène, donc l'ADN, c'est peu probable qu'on va faire donc le même enseignement donc en biologie. On peut éventuellement, mais donc en biologie, donc on va travailler plutôt donc l'ADN comporte d'informations éventuellement donc programmateurs pour des protéines. Et il y avait donc des études, donc j'ai pas la référence, donc récentes sur le gène. Donc j'avais un collègue en Australie qui avait travaillé sur les différentes interprétations de ce que c'est un gène, qui a montré que pour quelqu'un qui travaille dans la biologie moléculaire, donc sa conception du gène est assez différente de quelqu'un qui travaille dans la génétique des populations, que même s'ils utilisaient donc le même terme et a priori le même concept, en fait ils avaient donc un regard assez différent de ce que c'est donc l'objet. Et donc ça peut être donc un problème, mais ça peut être donc un avantage, parce que ça donne la possibilité des spécialistes de communiquer donc autour d'un objet. Voilà, donc j'ai repris ce terme codisciplinarité, donc mon spellchecker n'a pas aimé ça non plus, mais j'ai insisté. Voilà, donc pour finir donc sur une note positive, je sais pas, j'ai donné quelques pistes, mais pas vraiment donc des réponses. Mais il me semble que ce travail qui est encouragé, donc ça amène donc au minimum donc vers l'ouverture, parce que je crois qu'il y a quand même des logiques de spécialisation et disciplinarisation qui poussent vers la fermeture. Donc j'ai suggéré, j'ai pas vraiment expliqué, donc notamment donc la formation, je crois que la formation, donc je crois que c'est là où je trouve Kuhn vraiment génial, donc beaucoup plus que sur les révolutions. Donc son discours sur la formation, ça m'a semblé donc très bon. Et donc éventuellement avec l'ouverture, on peut avoir donc éventuellement donc a priori la compréhension entre les enseignants, mais aussi donc une compréhension de la part de l'élève, donc éventuellement donc l'idée, je crois que c'est je suis pas spécialiste de domaine, mais je trouve que c'est quand même pas une mauvaise idée d'envoyer donc des élèves sur un parcours transdisciplinaire pour avoir donc une compréhension donc ou je dirais pas forcément meilleure, mais différente ou plus compréhensive des objets d'études. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de parler des... Il y a deux références que je donnerai pour les gens qui veulent pour aller plus loin. Donc, c'est un livre que Timothy Lenoir, qui également c'est pas traduit en français, qui prône donc une approche culturelle donc de la formation des disciplines de physiologie, donc dans la fin des années 90, et donc un ancien article de Pierre Bourdieu donc sur le champ scientifique, il a repris un peu donc dans une publication début des années 2000, donc la science, mais en fait l'article est beaucoup plus concise et à mon avis, des plus porteurs donc, pour le temps investi, que vous pouvez télécharger sur, sur Percé, donc, l'article de Pierre Bourdieu de 76. C'est pas, ça ne traite pas précisément des disciplines, mais ça donne donc des ouvertures vers un regard vraiment sociologique sur des disciplines que moi, personnellement, je trouve très intéressantes. Moi, je suis peut-être... J'ai lu trop de sociologues, j'ai peut-être passé trop de temps en France, mais donc c'est un peu une question de quelle perspective, parce que donc la force d'une discipline sur le plan professionnel et institutionnel et son autonomie, donc là je suis assez convaincu, son indépendance et ça, ses qualités de se mettre en valeur. Donc, pour caricaturer encore une fois, donc on dirait qu'une bonne science, c'est la science qui est autonome, ou c'est très bien identifié, et qui donne donc des réponses à toutes les questions. Et donc, c'est ça qui va décrocher tous les financements de l'ANR, donc qui va être donc des laboratoires d'excellence pour cette super discipline. C'est le truc que votre cher président, je crois qu'il cherche ça, parce que c'est ça qui va mener donc le moteur économique donc de tel ou tel pays. Donc, on voit ça tous les jours. Donc, un jour, c'est les nanotechnologies, ensuite, c'est les neurosciences, avant, c'était l'informatique. Et si on dilue, donc si on dit « Ah oui, non, mais on est l'informatique, mais l'informatique, finalement, c'est qu'une sous-discipline des maths », à ce moment-là, vous êtes en train d'envoyer des milliards d'euros vers des matheux qui vont recruter des matheux qui... Donc ça, c'est intéressant. Il y a Pierre Mounier-Kuhn qui a travaillé sur l'histoire de la discipline de l'informatique. L'informatique a eu énormément de problèmes d'établir donc des sections en CNU et au CNRS. Pendant longtemps, les informaticiens ne pouvaient pas être recrutés au CNRS parce qu'ils dépendaient des matheux et des matheux ne voulaient absolument pas recruter des informaticiens parce que des informaticiens, selon eux, selon le critère à eux, c'était des matheux. Donc, vous voyez pourquoi je dis c'est positif, donc c'est une vision un peu cynique. Moi, donc on ne vend pas très bien l'épistémologie en disant ah, bah, finalement c'est une sous-discipline de la philosophie. Ah, bon, voilà. On ne va jamais avoir donc, des financements. Hein, c'est... Mais par contre, je trouve que c'est très bien donc, dans l'idéal. Moi, je ne vois pas. Donc, voilà, je sors parce que je suis anglo-saxon. Donc, déjà, j'énerve tout le monde. Parce que pas... je trouve finalement les disciplines donc, dans cette structure n'ont pas de sens. Moi, je crois que les universités sont tout à fait capables d'identifier et recruter un physicien sans qu'il y a donc, un corps donc, national qui identifie qui sont des physiciens, qui ne sont pas. S'il veut recruter quelqu'un qui est autant informaticien que physicien, donc si c'est pour un travail de recherche précise, pourquoi pas? Mais c'est bien possible que cette personne ne serait jamais qualifiée pour postuler un poste. Moi, je trouve ça ridicule, mais ça revient à la partie positive que je trouve qu'en fait, cette lutte de pouvoir autour des disciplines, c'est handicapant hein, donc dans les cas précis. Et donc, si on est prisonnier, donc pour utiliser les termes un peu, si on est prisonnier de sa discipline, on a donc une vision un peu réduite par rapport aux autres. Donc si on voit tout le monde par l'optique de la chimie, donc moi je crois que c'est mieux d'avoir donc des regards variés. Mais on revient donc aussi à la question de l'investissement. Et donc il faut passer tellement de temps de rester donc au point de la recherche que c'est que nous donc des dilettantes. Le dilettante c'est un très bon terme parce que vous voyez donc dans les bouches de quelques-uns c'est très bien être amateur dilettante, dans les autres c'est une condamnation. Oui, j'imagine aussi c'est un peu la critique à laquelle doit être confronté donc des enseignants, que quelqu'un qui est en SVT mais qui s'intéresse à la physique, quand même j'imagine il y a quand même pas mal d'enseignants qui le voient de mauvais œil.